On reçoit aujourd'hui Mado Lamotte. Mado Lamotte, qui ne connaît pas Mado, il y avait une blague que je vais reprendre de notre ami Barbada qui disait, ben, je suis la troisième drag queen la plus connue, non, la quatrième drag queen la plus connue. Il y a Mado, Rita Baga, la troisième, non, la troisième c'était Michel Richard, puis après ça c'était lui. Mais nous on reçoit la vraie de vraie Mado et on est très content de t'avoir ici. Bonjour.
Bonjour.
Alors Mado Lamotte, ça fait un petit bout de temps que Mado Lamotte est connue au Québec.
36 ans au mois de juillet.
Ouais, Mado, elle a 36 ans, mais elle n'a pas l'air plus que
Ouais.
20 ans.
Non, je sais, c'est une éternelle 29 ans que je dis toujours.
Puis
Vraiment, là.
le petit frère ou le jumeau de Mado,
Mais en
Luc.
fait, c'est son homme.
Ouais, son homme, quand tu dis ça de même.
Ouais, je dis ça de même.
Son
Luc,
homme
c'est
non
le.
plus, il vieillit pas.
Ben, je sais pas, il est cheveux gris, là, ça a
Ah, ben oui.
l'air.
Ben
Mais
ouais.
de cœur, non.
De cœur, non, tout à
Toujours
fait.
le cœur jeune.
Écoute, moi je connais l'histoire de Mado, mais plusieurs personnes ne connaissent pas. Comment ça t'est venu à l'idée de, à une époque où d'être drag queen, c'était pas dans le vent comme ça l'est maintenant, comment ça t'est venu à l'idée de faire ça?
Mais premièrement, je vais prendre la voix de Luc, comme ça,
Oui,
il va t'expliquer c'est
en
quoi,
fait,
mais.
je vais spécifier aux gens, c'est que nous, on invite les deux personnes, Luc et Mado, puis ça va être Luc qui va répondre à certaines questions.
C'est ça, parce
Fait que
que
vas-y,
quand
Luc.
j'étais à l'école de théâtre, à un moment donné, je trouvais que je jouais pas assez. J'étais à l'UQAM en option théâtre, parce que j'étais plus petit que tout le monde, puis bon, tu peux pas jouer Roméo quand tu mesures 5 pieds 6, puis toutes les filles mesurent 5 pieds 10, t'sais.
Ouais.
Fait que finalement, on m'a dit, toi, tu devrais te diriger dans la comédie. Puis bon, ben OK, pourquoi pas. Puis un soir, par hasard, je suis dans une soirée au bar qui s'appelle le Poodle, puis il annonce une soirée pour femmes d'affaires, comment ça s'appelait? Businesswoman, c'est en anglais, ça venait de Toronto, ce concept-là. Une convention des femmes d'affaires du Québec, en affaires de mer. Moi, mon meilleur ami, Olivia, s'est déguisé en femme d'affaires pour cette soirée-là. On a eu tellement de fun, on a tellement déconné que le patron est venu nous voir pour nous dire, hey, vous deux, là, vous jouez votre rôle depuis le début de la soirée, vous êtes super hot, ça vous tenterait-tu de faire un show? Un show de quoi? T'sais, moi, en théâtre, oui, je veux faire des shows. T'sais. Puis là, quand il nous a expliqué, c'est quoi? Ben, garder nos personnages, fait qu'on a. OK, on essaye. Fait que vraiment, c'est arrivé de nulle part, finalement. Je voulais pas, c'était pas prémédité, je voulais pas faire une carrière de drag queen. Je savais même pas c'était quoi une drag queen. Dans ce temps-là, ce mot-là n'existait même pas. On disait travesti, personnificateur féminin. Nous autres, on se décrivait comme des personnages parce qu'on rentrait dans aucune des catégories. Puis on a fait un show à ce bar-là, le Poodle, qui s'appelait Les Sœurs Lamotte. Le Noël en juillet des Sœurs Lamotte. C'est le 24 juillet que Mado est née, 1987. Fait que là, elle va avoir 36 ans cet été. Même si elle dit toujours qu'à 29 ans, ça marche pas, mais c'est pas grave.
Ben, elle n'a pas l'air d'avoir plus que
Non,
29
non,
ans.
mais c'est ça. C'est une éternité. Du maquillage, ça cache des rides, on sait bien.
Ah, ben,
Puis finalement,
je vais devenir drag queen moi aussi
ben
dans
oui, pourquoi pas?
ce cas-là.
Ça serait tellement plus beau si tout le monde était un peu drag queen.
Ouais, tout à fait.
Fait que finalement, on a refait l'expérience une deuxième fois, quelques mois plus tard, puis on a comme eu la piqûre de faire du spectacle. Fait que je me servais de ce personnage-là pour faire de la scène, ce que je voulais faire dans la vie. Puis je me suis fait prendre au jeu. À force d'en faire, j'aimais ça. Puis à force d'aimer ça, ben, le public a embarqué aussi. Tu sais, c'est sûr que quand tu fais quelque chose, si le public n'est pas là, ben, elle oublie ça.
Le
Puis.
public a embarqué, puis ça s'est rendu à un moment donné, je pense que c'était, je ne sais plus quel bar, mais c'était les Bingo
En fait,
Amado.
après le Poodle, pour faire une histoire courte, je suis allé au Lézard, où j'animais les mardis interdits. C'était une soirée gay dans un bar, ben, en fait, mixte. On disait pas gay, straight à l'époque. C'était comme une soirée mixte. Puis pas loin de ça, il y avait un petit bar qui s'appelait le Zorro, dans un sous-sol, où j'ai commencé les premiers bingos Amado. Parce que ceux que le grand public connaît, c'est les bingos Amado du Sky,
C'est ça.
qui se sont transportés au Spectrum après, puis au Capitole à Québec, puis un petit peu en tournée dans la.
Et les bingos, expliquons qu'est-ce que c'était là.
C'était.
C'était pas des bingos comme les gens connaissent.
C'était pas un jeu. On faisait tout sauf du bingo. C'était des performances, c'était des comédies, c'était des sketchs, c'était des chansons, c'était de la bitcherie beaucoup avec le public, avec les drag queens entre nous autres. C'est vraiment un gros happening où est-ce qu'on jouait un peu. Le bingo, c'était le prétexte à un spectacle, en fait.
Ouais, tout à
T'sais,
fait.
on jouait quand même au bingo, puis ça prenait peut-être une demi-heure pour faire une ligne de cinq numéros. C'est impensable dans un vrai bingo. En une minute, c'est fait. Puis là, ben, tu fais monter la personne qui a gagné sur la scène. On le niaise un peu, c'est long, puis on déconne, on fait des folies, puis. Ça s'étirait des fois. On prévoyait un show d'après 2 heures, 2 heures et demie, puis des fois, ça durait jusqu'à 3, 4 heures. Mon record au Casino de Montréal pendant la Fierté Gay, à l'époque, c'était Diversité. On avait fait 5 heures de bingo. On a commencé à 8 heures, puis les gens partaient vers minuit. Ils n'étaient plus capables. On a fini comme à une heure moins quart du matin. Il restait la moitié de la salle qui était encore là, qui en voulait encore. Mais nous autres, on était épuisés.
Mais c'était aussi, c'était pas tout préparé. Là. Vous improvisiez beaucoup.
La base était préparée s'il y avait des performances, tout ça, mais le reste, c'était de l'impro non-stop.
Parce que finalement, Mado, c'est aussi une humoriste. Là. Mais elle est drôle.
Une stand-up comique.
Stand-up comique.
Un peu, mais je n'aime pas ça dire ça parce qu'elle ne se tient pas debout devant son micro. Souvent, stand-up comique, il y a des textes répétés. Puis il fait
oui.
Mais Mado, elle fait beaucoup d'impro, mais de plus en plus, moi, j'écris des textes pour être sûr que si j'ai un blanc de mémoire, quelque chose, ben, c'est moi qui écris le texte. Fait que Mado, elle va être capable de se débrouiller sans s'il y a un blanc qui arrive, ou s'il y a quelqu'un dans la salle qui tombe ses nerfs. Ou s'il y a quelqu'un qui dérange le show, tu sais, elle sait comment se revirer de bord puis répondre, puis ça reste drôle.
Mais est-ce qu'écrire des textes aussi de nos jours, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention au genre d'humour qu'on fait, il y a des choses qui passent beaucoup moins bien. Hein?
Mais c'est surtout avec tous les nouveaux mots qu'il faut s'approprier, il faut en éliminer quelques-uns, il faut faire attention à les appropriations de culture, puis de genre, puis tu sais, il y a tout ça que tu mets en ligne de compte, et c'est plus facile. Je réfléchis toujours 2-3 fois avant de parler, et avant d'écrire aussi.
D'accord. Donc, Mado, elle prend pas trop un verre quand t'es sur
scène. Elle n'en prend plus du tout.
Ah oui?
À l'époque des bingos, on pouvait caler jusqu'à 10 cognacs, Nana et moi, puis là, finalement, c'est ça qui faisait que ça allongeait les shows. On devenait complètement cinglés. Mais là, finalement, si je veux que Mado vive jusqu'à 30 ans, de 29 à 30, ça dure au moins 20 ans entre les deux.
Tout à fait.
Moi, je bois plus du tout.
Écoute, t'attendais-tu à ce qu'à un moment donné, même Mado devienne tellement connu? Elle a même eu sa statue de cire.
Non, j'en viens pas.
Ouais.
Non, je m'attendais pas à ça du tout. Moi, quand j'ai commencé, c'était en attendant.
Ouais.
Je vais faire Mado en attendant de faire du théâtre.
Aïe, aïe.
Mais comme je me suis fait prendre au jeu, puis Mado était de plus en plus en demande, j'en faisais de plus en plus, je me rendais compte que c'est devenu ma job à temps plein.
Ouais.
Et j'ai fait, bon,
on va en reparler tantôt, mais en attendant, ça va finir par arriver parce que Luc va se retrouver sur scène. Mais ça, on va en reparler.
Ouais, ça, c'est quelque chose.
Évidemment, on connaît à Montréal le cabaret, le bar où Mado performe. Est-ce que c'est toujours aussi important dans la carrière de Mado d'être là au bar?
Bien, tout à fait, parce que c'est comme sa scène. Moi, je dis toujours, j'ai mon théâtre où je peux faire évoluer mon personnage.
Mm-hmm.
Parce que dans les bars, souvent, c'est qu'on n'était pas très bien reçu. C'est un flash show qui appelait de 1h à 1h15. Ça, c'est si le DJ voulait.
Ouais.
Parce qu'il ne fallait pas que tu déranges son mix. Je peux comprendre. Des fois, on dérangeait plus que d'autres choses. Les jeunes qui s'amusent, qui dansent, qui ont du fun, bang, on arrête tout ça, on leur présente un show. Fait que c'était pas toujours bien vu par tout le monde, même si beaucoup de gens, en général, aimaient nos shows. Mais le fait d'avoir un cabaret maintenant, c'est genre, ben écoute, j'ai ma place, je peux faire ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre à personne, à part à moi-même.
Ouais.
Puis, tu sais, ça devient comme un vrai théâtre. On fait des shows d'une heure avec entraque, 2 heures, je veux dire, avec entraque. Fait que, tu sais, là, le client qui vient voir un spectacle, il vient voir un spectacle. Il vient pas pour danser, puis, on va te déranger avec un spectacle.
Non. Moi, je suis allé voir des spectacles au cabaret.
C'est ça, puis c'est des bons spectacles, c'est des longs spectacles. C'est pas genre juste un petit flash de 10-15 minutes.
Tout à fait. C'est des shows très bien montés, très bien présentés.
Ben, c'est préparé maintenant. Ouais. Souvent, dans les bars, on était préparé, mais un petit peu plus, c'était moins sérieux, là.
Écoute, t'es arrivé au monde, Mado est arrivé au monde à une époque où c'était pas la connu comme maintenant, hein, les drag queens. Maintenant, c'est vraiment, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est mainstream, hein, c'est un phénomène connu. Et beaucoup de ces drag queens-là sont les filles de Mado, sont tes filles. Comment tu vois ça, là? Comment tu vis ça, cette époque-là?
Mais j'ai une grande fierté pour ce qui se passe aujourd'hui avec les Rita Baga, Barbada, Mona de Grenoble, Gisèle Lebeille, ça, c'est les 4 qui sont dans l'actualité en ce moment. Puis en même temps, ben je trouve que c'est le fun de l'évolution.
Mais Pirita, c'est ta fille, là.
Ben c'était ma petite fille, mais là, comme sa mère fait plus de drague, elle m'a demandé, je peux être ta fille à la place. Tu sais, c'est comme dans le monde de la drague, il y a comme des mères, des grands-mères, des matantes, des marraines. Moi, je suis marraine. Mado est marraine de 2-3 dragues. Elle a 2-3 filles, mais il y en a une qui est décédée, malheureusement. Il y en a une autre qui fait plus de spectacle. Il y en a une autre qui est... Là, je dis, c'est ma fille transsexuelle parce qu'elle est redevenue un garçon. Puis on s'amuse avec l'arbre généalogique des drag queens change continuellement, mais tu sais, il y a comme un arbre généalogique qui s'est formé. Mado est en haut, là. Puis là, il y a ses enfants, qui ont eu des enfants, puis là, c'est très drôle.
Elle est grand-mère à 29 ans. Faut pas oublier ça.
En fait, Mado, elle est arrière-grand-mère.
À 29 ans.
Puis là, j'ai dit aux filles, arrêtez de faire des enfants parce que je veux pas être arrière-arrière-arrière.
Rapidement, Luc, ben, en fait, non, pas rapidement, c'est important cette question. Qu'est-ce que Mado te permet de dire comme artiste que tu ne pourrais pas dire en Luc?
Ben, c'est sûr qu'elle peut être un peu plus politisée, puis elle peut être avoir, donner son opinion sur des sujets peut-être qui passeraient moins bien que si c'était un garçon qui débarquait sur scène puis qui faisait des gags avec les filles, des fois, ouais, sans se faire traiter de misogyne ou hétérophobe,
ouais.
Si ce mot existe. Tu sais, en même temps, c'est sûr que j'en profite pas, je fais pas exprès de dire, bon, je vais passer ce message-là avec Mado, là. Mais inconsciemment, je l'ai fait parfois, tu sais, pendant certaines périodes de l'année, pendant la fierté gay, quand je disais des trucs qui dénigraient le défilé ou genre tel truc, tel autre truc. Puis là, je me servais de Mado pour passer mon opinion pour dire ce que moi j'avais à dire, mais si je l'avais fait en gars, je suis pas sûr que ça aurait passé de la même façon. Tu sais.
Tout à fait.
Ou ça aurait peut-être pas été accepté du tout.
Il y a beaucoup de personnes, d'artistes drag aussi, qui disent, ben moi, quand je suis très timide en personne, mais quand je suis dans mon personnage, je suis plus à l'aise de dire ce que
moi,
je veux.
Ça l'a changé. Plus ouais. Jeune, j'étais très excentrique, autant en Luc qu'en Mado.
Ah oui?
Mais en vieillissant, je me suis assagi. Là, c'est Mado la folle, beaucoup moins folle qu'elle était. Elle s'est assagie, elle aussi. Mais moi, je suis plus réservé que timide. C'est-à-dire que je suis un solitaire dans la vie. Je travaille seul avec mes textes puis mes trucs pour mon personnage. Même si j'adore travailler en équipe, mais j'habite seul aussi, puis ça fait bien mon affaire. Là, je me plains pas de ça. Mais en même temps, être le centre d'attraction, ça me tente plus. Parce que Mado prend toute la place. C'est bien correct comme ça. J'aime ça avoir ma petite vie privée, en fait. Là, je pense que je vais l'avoir un peu moins parce que si je commence à faire de la télé puis du théâtre, oh là, Luc va se faire voir la face un petit peu plus.
On va savoir qui est justement la personne sous la perruque. On prend une petite pause puis on revient.
Oui.
On revient donc avec Mado Lamotte et son homme, Luc Provost. Alors, ça se peut que vous entendiez Luc et parfois Mado. C'est correct. C'est comme ça. Luc ou Mado, les temps sont quand même assez différents de ce que c'était. C'est sûr que les drag queens, l'art de la drague, l'art de la drague, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps.
Mm-hmm.
Ça date de plusieurs siècles, en fait. Les gens ne se rappellent pas que dans les temps shakespeariens.
Les Grecs se travestissaient, les Japonais, les femmes n'avaient pas le droit de faire de théâtre kabuki.
Mm-hmm.
C'est les hommes qui jouaient des femmes. C'est pas d'aujourd'hui là, qu'il y a des personnages de drag queens.
C'est pas nouveau. Et
non.
En fait, c'est juste que maintenant, c'est connu. Puis justement, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu penses de tout ce phénomène, RuPaul, qui a mis les drag queens de l'avant, qui a démocratisé, en fait, cet art?
Mais c'est sûr que c'est pas une mauvaise chose. C'est de l'entertainment qui est devenu, comme tu disais, grand public, mainstream. Ça, c'est le fun parce que ça comme je dirais, donner une espèce de crédibilité à notre art, que les gens me disaient souvent quand j'étais plus jeune, « Ah, mais c'est pas sérieux ce que vous faites, les drag queens, c'est un peu n'importe quoi, c'est vulgaire, c'est un sideline, tu fais ça comme la fin de semaine, puis la semaine, j'espère que t'as une vraie job parce que tu vas crever de faim. » Puis là, je me disais, « Ben, attends, là, moi, c'est mon métier, là. Je suis un artiste, je suis pas un gars qui s'habille en femme, là.
Mm-hmm.
C'est un personnage que j'ai créé, là. Comme n'importe quel auteur, comme Molière a créé ses femmes savantes, Michel Tremblay a créé ses belles-sœurs, moi, j'ai créé Mado.
Ouais.
Puis j'écris pour ce personnage-là, j'y ai donné une personnalité toute. Fait que le fait maintenant qu'on en voit de plus en plus, puis que ça soit comme accepté enfin et non pas seulement toléré, ben je trouve ça le fun que je puisse pouvoir enfin vivre de mon art qui est appelé un art et non genre une affaire sur la slide là, que tu fais parce que t'as pas rien d'autre à faire, parce que t'es pas. Surtout quand tu te dis, t'es pas à l'aise en garçon de dire ce que tu vas faire, fait que tu te déguises, tu te caches derrière un personnage. Non, wow, wow, wow. Les acteurs de théâtre ne se cachent pas derrière un personnage, on joue.
Ouais.
C'est un jeu pour moi, là. Ouais.
Puis, de toute façon, ce que fait Mado, elle nous fait rire, mais nous fait réfléchir aussi. Moi, je t'ai vu plusieurs fois dans des shows. Puis, à un moment donné, je dis, ah ben, c'est bon. Ça sortait, c'était drôle, mais en même temps, ça te fait réfléchir.
Ben, c'est sûr que, comme je disais tantôt, je ne me sers pas de Mado, mais des fois, inconsciemment, je vais passer un petit message. Puis ça fait réfléchir. Puis surtout, c'est de l'éducation que je fais.
Mm-hmm.
Parce que il y a des gens qui viennent pour la première fois puis qui n'ont jamais vu c'était quoi un spectacle de drag queen. Puis ils connaissent pas tout. Ils ont vu à la télé, ils nous ont vu dans les magazines. Ils ont vu des photos, des vidéos, mais ils savent pas tout à fait c'est quoi. Fait que moi, j'en profite pour peut-être éduquer un peu le public. Puis ils ressortent du cabaret. Des fois, ah, mon Dieu, je savais pas que c'était ça. C'est le fun. C'est agréable. C'est pas aussi flyer. Des fois, ils rentrent et ils disent, ça va être flyé. Ils ont quasiment peur de que ce soit une maladie qu'ils vont attraper.
Mais justement, la notoriété et le fait que ça devient de plus en plus populaire vient aussi l'autre côté du balai.
Ah ben oui.
Et là, ce qu'on voit ces jours-ci avec tout ce mouvement anti-drag queen, une mouvance qui nous est importée des États-Unis, l'entendons-nous.
Ouais.
Toi, comment réagis-tu à ça?
C'est sûr que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais je me dis, c'est la roue qui tourne. Il y a 35 ans, quand j'ai commencé à faire de la télévision, pour la première fois, il y avait des commentaires désobligeants qui arrivaient de toutes parts, puis il y en a d'autres qui tripaient au bout, puis qui découvraient les drag queens, c'était quoi. Là, aujourd'hui, ben comme là, tout à coup, il y en a eu 4-5 qui sont sortis en même temps, fait que là, c'est sûr que les gens d'extrême droite capotent, ou bien c'est genre, ça leur... Après les anti-vax, que c'est qu'on pourrait faire? On pourrait être anti-quoi? Souvent, il y en a, c'est juste ça. Mm-hmm. Ils cherchent comme Éric Duhaime, ils cherchent le sujet... mobilisateur pour sa gang d'extrême de frustrés ou je sais pas trop. Surtout que c'est un manque d'éducation qui provoque ça, moi je dis. Ouais. Si tu sais pas ce qu'on fait, mais viens pas dire que c'est mauvais ou que c'est dangereux pour tes enfants. Ouais. Je peux t'en nommer des métiers qui sont peut-être plus dangereux de mettre des enfants en contact avec. Mais tu sais, je dirais rien, mais tu sais, en même temps, c'est sûr que comme plus quelque chose devient accepté, et ce qui peut choquer, parce que c'est trop différent du quotidien de tout un chacun, c'est sûr qu'il y a des réactions négatives. Mais c'est avec l'éducation, avec la force d'en parler, d'en voir, qui vont peut-être finir par sourire. Mais il y en a, ça va toujours être comme ça.
Il y a quand même des craintes. Moi, je pose la question, là, puis tu peux complètement me dire que je suis dans le champ. Mais moi, j'ai des craintes. On voit à un moment donné où ces mouvements-là peuvent aller. On a vu aux États-Unis les excès de cette espèce de mouvement-là. Il n'y a pas, à un moment donné, une crainte où tu te dis, ben là, à un moment donné, il faut qu'on mette des policiers tout autour de nos bars.
Non, ben, en ce moment, il n'y a pas d'animosité. J'en sens pas dans le cabaret. Je pense que c'était vraiment suite au conte pour enfants que Barbada faisait, qui fait toujours. Mais aux États-Unis, c'est rendu plus loin. Ça, je peux pas te dire vraiment tout à fait comment je me sentirais si j'habitais là. Peut-être que, oui, il y aurait peut-être un sentiment de crainte, de danger. Mais au Québec,
On n'est pas là, là.
On n'est pas là, vraiment pas. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu pour essayer de provoquer cette espèce de mouvance-là qui pourrait arriver.
Ben surtout qu'il y a des politiciens qui instrumentalisent. Tu as nommé Éric Duhaime, il y en a d'autres qui instrumentalisent.
Lui, c'est un récupérateur, de toute façon. Il cherche la nouvelle pour choquer, pour se rallier des gens, pour se monter un parti d'extrême droite ou de droite, en tout cas.
Puis attendons-nous, il ment, parce que sa pétition, c'est pour interdire les drag queens dans les écoles, mais elles ne font pas leur lecture dans les écoles.
Ben voilà, il y a juste Barbada qui fait ça dans des bibliothèques. Puis en plus, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les parents inscrivent leur enfant à l'activité. Les parents sont présents dans la bibliothèque. Le livre vient de la bibliothèque. L'histoire, c'est une histoire pour enfants. Mm-hmm. Ils ne racontent pas des histoires de la nuit, de comment les drag queens se comporte dans un bar, là, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Il mélange les affaires. C'est pour ça aussi, des fois, l'incompréhension et le manque d'information, d'éducation va faire que ces gens-là deviennent extrémistes pour si peu. T'sais.
Je disais tout à l'heure que Luc va se retrouver sur scène après tant d'années. Alors, le Trident a annoncé sa programmation et il y a une pièce qui s'appelle Hosanna et la Sherezade des pauvres, qui est une adaptation, je pense, et
C'est un collage. De la pièce Hosanna
et le
nouveau roman de Michel Tremblay qui raconte l'histoire d'Hosanna qui a 79 ans maintenant.
Tout à fait. Donc, tu vas te vieillir parce que tu n'as quand même pas l'air de
70. Moi qui ai à peine la jeune cinquantaine, je me suis dit comment je vais faire pour... ils vont sûrement m'arranger ça. Là.
Alors, mais comment c'est arrivé tout ça?
C'est bien bizarre parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça, premièrement. J'ai lancé une espèce de bouée dans l'océan quand j'étais à... Pour la première fois, je me suis montré au grand public avec La Vraie Nature.
Oui.
À un moment donné, Jean-Philippe me demande « Est-ce que tu aimerais ça jouer autre chose que Mado? Jouer peut-être un rôle en Luc? » Je dis « Bien, tout à fait. » J'ai dit « Moi, je suis un acteur de théâtre qui joue le même rôle depuis 35 ans.
Mm-hmm.
Ça serait le fun que j'en joue un nouveau. Puis pas un travesti, pas un drag queen. J'aimerais ça jouer Luc qui joue quelque chose. » Mais là, je me trouve à jouer comme un travesti qui ne sera pas en travesti parce qu'il finit...
Parce que ceux qui n'ont pas lu le roman, c'est vrai, c'est comme, je pense, c'est quoi, 30 ans après?
C'est à peu près 30 ans après, je pense. Puis c'est comme Hosanna qui est dans son appartement, toute seule, qui a mal vieilli, évidemment, qui est décédée.
Oui, puis qui boit.
Qui boit en se levant le matin. Puis ça va être un journaliste de feu qui vient l'interviewer. Puis finalement, ben, elle raconte son histoire. Puis la pièce, ça va être, elle raconte son histoire. Puis les moments qui se passaient à l'époque vont être joués par un jeune acteur qui va jouer Hosanna jeune. Puis moi, je joue Josanna Vieille.
Wow.
Ça, c'est le metteur en scène qui est venu me voir, Maxime Robin.
Maxime Robin, qui est déjà venu à l'émission ici.
C'est ça, il est venu me voir. En fait, il m'a écrit pour me dire, je monte une pièce sur des drag queens, puis j'aurais besoin de ton avis. Moi, je disais, peut-être que j'entraîne un comédien, je l'aide. J'ai pas plus d'informations que ça. Il m'arrive dans un café dans le village, puis tout à coup, il me jase de ça. Je dis, ah, c'est cool ta pièce, le collage. J'adore trembler, je suis fan fini même.
Mm-hmm.
Là, il me parle des rôles. Le petit jeune va jouer là. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as pensé pour la vieille Osana? Il me dit, toi?
Oh, wow.
Puis voyons. Là, j'étais comme bouche bée, ahuri. Voyons, que non, tu me niaises. Je pensais que tu m'appelais pour. Il dit, je voulais pas te le dire au téléphone parce que j'avais peur que tu dises non. Mais il dit, en face, je peux te convaincre. J'ai dit, t'auras pas besoin de me convaincre, ben, mais c'est sûr que. Parle-moi-en un peu plus, tu sais.
Ouais.
Puis déjà, j'étais bien nerveux, j'étais bien excité. Je me disais, waouh, ça a pris un an finalement, puis le message est passé. Puis surtout, Tremblay.
Oui.
J'ai une histoire d'amour avec Michel Tremblay depuis mes jeunes années de
thé. Oui, parce que t'es vraiment, vous êtes très proche. Moi, je le vois, là.
Oui, puis il a fait son dernier lancement. Justement, il a fait le lancement de ce livre-là au cabaret.
Oui.
Et je lisais un extrait devant les gens qui étaient là pour le lancement. Puis à la fin, Guylaine Tremblay, que j'aime, qu'on se connaît bien, puis elle vient me voir, elle dit, franchement, Mado, tu peux jouer ça n'importe quand. Arrête d'avoir peur de pas être capable. Parce que moi, je te disais, j'étais-tu correct, j'avais peur. Non, tu peux jouer, t'es hot. Puis Michel m'a dit, bravo, c'est super bon, tu as bien lu. Puis après, quand il a su que c'est moi qui jouais, il m'a écrit un petit message, je suis vraiment content que t'aies accepté. Tu sais, c'est comme, je suis backé de toutes parts, là.
Ouais.
Si j'ai des problèmes, Guylaine, elle m'a dit, tu viendras voir, je vais te coacher, moi.
Ah, c'est le fun.
C'est sûr que c'est stressant un peu parce que ça fait longtemps que je joue le même rôle.
Ouais.
Là, faut que je joue un nouveau rôle, faut que je trouve une voix à ce personnage-là, faut que je trouve un genre, faut que je trouve une personnalité qui sera pas Mado.
Ouais. Mais c'est le fun de découvrir Luc. Moi, je te connaissais avant, mais tu sais, te voir en public, te voir en Luc, c'est pas mal d'être Mado, mais c'est le fun aussi de connaître personne sous la perruque.
Je pense que j'ai eu peur, pas j'ai eu peur, mais pendant 35 ans, j'ai dit non parce que je voulais pas que ça devienne l'espèce de sensationnalisme. Ah, c'est ça qui a de l'air en gars.
Ah.
Je voulais pas que ça soit juste une image. Qu'on voit Luc démaquillé
d'un. Mais t'es beau, Luc. On devrait le dire au monde.
Là. Ben là, je suis pas payé pour mon nom. J'ai une belle mère, j'avais un beau père. Vraiment, c'est parce que j'étais gâté dans ma famille. Il y a tout du beau monde par chez nous. Mais c'est surtout que, tu sais, j'ai toujours voulu garder ma vie privée, puis j'avais pas envie de me faire reconnaître sur la rue. Puis là, maintenant, on me reconnaît un petit peu plus à cause de l'émission, mais vu que ça fait déjà un an, là, whoop, il y a un peu moins de monde qui me reconnaissent.
Ouais.
Tu sais, j'aime ça être tranquille quand je prends le métro, de ne pas me faire achaler par tout le monde. Puis peut-être que là, après la pièce, je deviens populaire en garçon. Je vais être obligé d'acheter un char.
Mais non, c'est pas bon pour l'environnement. Ça.
J'ai mon vélo, puis je suis correct.
Ouais. Luc Provost, c'était vraiment le fun de te recevoir. En fait, j'ai une dernière question rapidement.
Oui.
La statue là, de Cire de Mado, qu'est-ce qu'il y en a?
Ben, je sais pas.
Tu l'as pas pris?
Il voulait m'adonner, puis là, j'ai dit, tu sais que je vais mettre ça. Puis là, finalement, le Musée de la civilisation à Québec aurait acheté plein de statues québécois, une dizaine de statues de Québécois,
ouais,
qui étaient sur place, dont celle de Mado.
OK.
Fait que quelque part dans un garde-robe du Musée de la civilisation à Québec, peut-être qu'ils vont faire une exposition sur les légendes du Québec.
Ah, mon Dieu. À 29 ans, une légende.
Ah, c'est incroyable.
Luc Provost, c'était un plaisir de te recevoir. Mado aussi, c'était un plaisir de te recevoir.
Ben oui, elle était pas loin, mais...
Ah, ben, c'est tenu tranquille, faire changement. Ah oui,
c'est rare.
Merci beaucoup.
Un plaisir.